RFI Matin.
Dans quelques minutes, l'invité Afrique, Jean-Pierre Auger, ancien officier français au Tchad, en Côte d'Ivoire. Et il a travaillé pour les renseignements français. Christophe Boisbouvier lui a demandé si ces renseignements français perdaient en efficacité en Afrique. Mais d'abord, on passe au sport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra dans un an et demi au Maroc. Et hier a eu lieu le tirage au sort des groupes de qualification.
La Côte d'Ivoire, tenante du titre, hérite d'une poule très abordable avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Même chose pour le Cameroun qui sera opposé à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe. Pour sa part, la RDC hérite de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie.
Futur pays hôte, le Maroc a donc déjà son ticket, mais il va tout de même participer à ses éliminatoires.
Oui Marion, dans un groupe un peu particulier, donc avec un seul ticket en jeu que se disputeront le Lesotho, le Gabon et la Centrafrique. La RCA toujours en quête d'une première participation à la CAN. Les fauves ne sont pas passés loin lors de la dernière édition. L'équipe du milieu capitaine Geoffrey Kondogbia progresse grâce notamment au travail de Raoul Savoie sur le banc, le sélectionneur qui réagit à ce tirage.
Nous aurons un mini championnat à 3 avec les Lesotho et le Gabon. L'équation, elle est simple, c'est de gagner ce mini-championnat. Et je suis convaincu que si nos joueurs sont dans de meilleures conditions possibles en club et qu'on arrive à avoir le maximum de ceux-ci en pleine forme dès le mois de septembre, on pourra gagner ce mini-championnat et accéder enfin au plus gros tournoi du continent africain l'hiver prochain au Maroc.
Raoul Savoie avec Martin Guez, tirage complet à retrouver sur RFI.fr. Rendez-vous en septembre pour le début de ces éliminatoires.
En basket, la course aux Jeux Olympiques se termine. Il reste 4 places à prendre, une par tournoi de qualification.
Et le Cameroun y croit, exploit hier contre le Brésil, une victoire 77-74. Les 3 équipes du groupe sont à une victoire et une défaite, mais c'est le Monténégro qui prend la porte en raison d'une moins bonne différence de points. Les Camerounais sont donc à 2 matchs du Graal, demi-finale demain contre la Lettonie qui joue à domicile.
En revanche, Victor, fin du rêve olympique pour la Côte d'Ivoire.
Oui, une deuxième défaite en 2 matchs des éléphants battus par le Mexique, 92-80. Même chose pour l'Égypte, dominée par la Grèce de Yanis Antetokounmpo, 93-71. C'est fini aussi pour l'Angola qui a échoué contre le Liban, 74-70. Pour rappel, Marion, la meilleure équipe africaine du dernier mondial, le Soudan du Sud, est la seule sélection masculine du continent qui a son ticket pour les Jeux.
Et on est à 3 semaines de la cérémonie d'ouverture. Les athlètes sont dans la dernière ligne droite.
Hier avait lieu le meeting de Sotteville-lès-Rouen, dans le nord-ouest de la France. C'est le club du Camerounais Emmanuel Essémé, vice-champion d'Afrique du 100 mètres il y a quelques jours à Douala. Il s'est imposé cette fois sur la distance reine. Emmanuel Essémé espérait mieux que ce chrono en 10 secondes et 11 centièmes, mais il s'en contentera.
Bah oui, c'est une bonne soirée avec une victoire. On se rejoue toujours. Ouais, je pense que nous sommes sur le bon chemin. C'est vraiment pas le chrono que j'espérais faire. J'espérais faire beaucoup plus mieux, mais comme je dis toujours, il faut se réjouir de tous les chronos qui viennent. Parce que si on doit toujours se réjouir de très bons chronos, on ne va pas aimer le processus. Donc voilà, ça va. Il faut toujours avoir confiance parce que c'est ça l'essentiel. Là, je pense que je vais entrer me reposer puisque je sors des championnats d'Afrique, un peu de fatigue. Donc je vais me reposer afin d'être top pendant les Jeux Olympiques.
Emmanuel Essémé au micro RFI de Baptiste Leduc. Enfin, en cyclisme, Binyam Girmay n'est pas passé loin d'une deuxième victoire sur le Tour de France après celle de lundi. L'Érythréen a terminé deuxième de l'étape hier derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen. Il garde le maillot vert de meilleur sprinter.
Le journal des sports de Victor Missistrano, pardon, dans votre prochaine édition, vous parlerez de l'Euro de football. C'est le début aujourd'hui des quarts de finale.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
7h47 à Paris, 5h47 en temps universel. À la une de l'actualité ce vendredi 5 juillet, le retour au pouvoir triomphal des travaillistes au Royaume-Uni. Ils ont infligé lors des législatives d'hier une défaite historique aux conservateurs et obtiennent la majorité absolue. Le chef du Labour, Keir Starmer, va être investi Premier ministre. Il promet un renouveau national. Un autre scrutin se joue en ce moment, le second tour de la présidentielle en Iran. Les électeurs ont le choix entre un réformateur et un ultra-conservateur. Le premier tour a été marqué par une forte abstention. Dernier jour de campagne en France avant le silence électoral et le second tour des législatives dimanche, où le Rassemblement national, parti d'extrême droite, espère obtenir une majorité absolue à l'Assemblée. Au Niger, la capitale, Niamey, accueillera demain le premier sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Niger et du Burkina. Et puis en football, le coup d'envoi des quarts de finale de l'Euro ce soir, avec d'abord Espagne-Allemagne, suivi de Portugal-France. Demain, les deux derniers quarts opposeront l'Angleterre à la Suisse et les Pays-Bas à la Turquie. La série de putsch au Sahel a pris les autorités françaises au dépourvu au point de se questionner sur l'efficacité des services de renseignement français sur le continent. Pour certains, c'est d'ailleurs après le coup d'État au Niger que le président Emmanuel Macron a décidé de limoger le patron de la DGSE, Bernard Aimier. Témoignage aujourd'hui d'un ancien officier français. Il a été en poste au Niger, au Tchad et en Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Auger vient de publier « Afrique à Dieu » aux éditions Mareuil. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Jean-Pierre Auger, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous racontez que vous avez été d'abord en poste au Niger comme officier de liaison. C'était dans les années 90. Or, il se trouve que c'est sans doute le Niger qui a fait tomber Bernard Aimier, le patron de la DGSE, à la fin de l'année dernière. Il semble en effet que le président français, Emmanuel Macron, lui ait reproché de ne pas avoir vu venir le putsch militaire du 26 juillet dernier à Niamey. Est-ce que ce reproche vous paraît justifié ?
Écoutez, ce que je sais, c'est que il est très difficile de déterminer le jour d'un putsch. Les complots, les Africains qui se livrent à ce genre d'exercice, généralement s'y prennent au dernier moment, ce qui explique que nombre de complots échouent, parce que c'est toujours dans la précipitation. C'est pour ça que ça me paraît pas très justifié de dire ils ont pas prévu le complot. Quand quelque chose ne va pas, faut bien trouver un coupable.
Alors vous êtes d'abord en poste au Niger, puis au Tchad, toujours dans les années 90. Et donc, Idriss Déby est au pouvoir depuis 6 ans. Il organise une élection présidentielle, sa première. Son directeur de cabinet, Timan Erdimi, vous informe, sous le sceau de la confidence, qu'il a gagné dès le premier tour. Et à ce moment-là, vous appelez Paris. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, mon travail est d'informer aussitôt de la victoire du président. Donc, je le fais. Et Paris, on m'invite à voir le président et à lui dire que cette victoire de 60% risque de ne pas être très appréciée par toute la communauté internationale et notamment nos amis américains. Parce qu'il faut replacer cet événement. Les Américains ont soutenu Abré jusqu'au bout. Donc 6 ans après, les Américains notamment avaient quand même des raisons de douter de l'exactitude du résultat. Donc Paris propose un deuxième tour. Pourquoi ? Parce que l'élection de Déby, elle était inéluctable. En fait, c'était une façon de la présenter mieux, de dire il a accepté un deuxième tour.
Donc vous appelez Paris et Paris vous demande d'aller voir le président Déby et de lui dire quoi ?
Il fallait trouver les mots. Hein. Déby n'est pas homme à se plier à vos caprices ou aux injonctions. Donc il m'a fallu trouver les mots et les mots, ils étaient simples. Autant être relativement bien vu par le maximum de pays. Donc pourquoi pas ? Et après quelques secondes, longues secondes de réflexion,
et de silence,
Idriss Déby a convenu de l'intérêt de cette formule.
Et du coup, il organise un deuxième tour, qu'il emporte officiellement face à Abdelkader Kamougué. Mais quelques années plus tard, plusieurs hauts magistrats tchadiens reconnaissent que les résultats d'alors avaient été trafiqués. À votre avis, quels ont été les vrais résultats de cette présidentielle ?
J'en ai aucune idée. Ce qui peut paraître surprenant, effectivement, c'est que le Sud ne lui était pas acquis. Et le Sud est quand même important au point de vue démographie. Si on s'en tient qu'aux seuls Agaouas, déjà divisés entre eux. Mais bon, c'est comme ça. L'Afrique a un lien avec la force. Moi, ce que je reconnais à Déby, c'est 30 ans de paix dans son pays. Ce qui est quand même un beau résultat.
Alors, autre pays africain où vous avez été en poste, la Côte d'Ivoire. Un putsch y surprend la France, c'est celui de décembre 99 contre le président Bédié. À l'époque, vous êtes justement chargé de mission à la présidence ivoirienne. Est-ce que vous avez vu venir quelque chose ?
Alors, je n'ai pas vu venir le putsch. D'ailleurs, même le putschiste était un peu un putschiste malgré lui, le général Gay. On est venu le chercher. En revanche, j'ai senti que le régime Bédié était quand même pas très solide, on va dire ça comme ça. Et j'ai envoyé des choses qui devaient peut-être un peu surprendre. Et je me suis rendu compte assez vite, donc, que ce président Bédier, c'était pas au fait de Boigny. Voilà. Alors, a-t-on tenu compte de mes, je le pense, de mes mots, mais de là à dire que quelques soldats se mutineraient un jour pour être mieux payés et entraîneraient avec eux la chute de Bédier, moi-même, j'ai appelé son directeur de cabinet pour lui dire d'être dur, répressif, surtout ne pas laisser cette mutinerie se développer, parce que c'est jamais très bon. Il ne l'a pas fait, et le lendemain, il était par terre. Mais je vous dis, ces putsch et complots partent de pas grand-chose parfois, hein. Une étincelle, un mécontentement, et c'est parti. Hein.
Certains y ont vu la main d'Alassane Ouattara.
Non, je me trompe peut-être, mais je ne le crois pas du tout, parce qu'Alassane Ouattara est trop intelligent pour confier à quelques zèbres le soin de... Il serait tombé sur un président qui avait une poigne, un petit peu de poigne, ça ne serait pas allé bien loin.
Jean-Pierre Auger, merci.
Jean-Pierre Auger, ancien officier français au Niger, au Tchad et en Côte d'Ivoire avec Christophe Boisbouvier. Côte d'Ivoire, un nouveau vaccin antipaludique vient d'être introduit dans le calendrier vaccinal des enfants de moins de 5 ans. Le nom de ce vaccin, c'est R21 Matrix M. Il sera déployé petit à petit dès le 15 juillet. Le ministère de la Santé ivoirien affirme avoir déjà plus de 656 000 doses en stock. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Marion.
Du service Info Vérif. Ce nouveau vaccin est symbole d'espoir dans la lutte contre le paludisme qui tue chaque année plus de 600 000 personnes. Mais son arrivée en Côte d'Ivoire génère aussi beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, Grégory.
Oui, après le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso et la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire devient le cinquième pays à autoriser l'utilisation du R21 Matrix M. Ce vaccin, développé par l'Université d'Oxford et le Serum Institute of India, est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé depuis octobre 2023. Le Mosquirix et ce R21 Matrix M sont aujourd'hui les deux seuls vaccins antipaludiques homologués par l'OMS.
Mais alors, qu'est-ce qu'il est reproché à ce vaccin ?
Eh bien, certains assurent sans preuve qu'il provoquerait de graves effets secondaires. Alors, pour savoir ce qu'il en est vraiment, nous avons posé la question à Marc Tellier. Il est le responsable du Centre national de référence du paludisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
C'est totalement faux. C'est un vaccin qui a été préqualifié par l'OMS et sur les essais qui ont été faits jusqu'à présent, on est à la phase 2 et phase 3 maintenant, il y a une très bonne efficacité mais également une excellente tolérance. Donc on est absolument certain que ce vaccin est efficace et qu'il est sûr et qu'on peut l'administrer dans un programme de vaccination.
S'il y a toujours un risque individuel lors de la vaccination, une réaction allergique par exemple, la balance bénéfice-risque est très largement en faveur de ce vaccin.
Autre contre-vérité, Grégory, ce vaccin serait inutile dans la lutte contre le paludisme en Afrique ?
Oui, c'est un des arguments phares du narratif anti-vaccin, mais là encore, c'est faux, nous explique Marc Tellier.
On a réussi entre 2000 et 2015 à faire baisser de manière importante le nombre de cas et le nombre de décès, mais on est en ce moment... notamment en Afrique, c'est l'Afrique, le continent africain qui souffre le plus du paludisme, on est en échec et on essaye de trouver des solutions.
Et le vaccin est une de ces solutions.
Le vaccin est une de ces solutions, c'est pas la seule, mais c'est une de ces solutions.
Le vaccin ne viendra pas remplacer, mais compléter les mesures déjà en place, comme les distributions de moustiquaires et le traitement des sites où prolifèrent les moustiques.
Alors qui diffuse toute cette désinformation ?
Des activistes anti-vaccins de longue date, mais aussi des influenceurs bien connus sur le continent. Leur désinformation vaccinale se mêle souvent avec des théories complotistes. Ils avancent, par exemple, que ce vaccin, financé en partie par la fondation du milliardaire Bill Gates, s'inscrirait dans un plan d'asservissement des populations, un récit déconnecté de la réalité.
Les vaccins ne sont pas développés par des individus ou des instituts isolés. C'est un travail collectif et on s'appuie toujours sur les travaux antérieurs. Donc c'est des progressions qui se font pas à pas dans des conditions qui sont très contrôlées et très ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut consulter les données qui sont issues des études qui sont faites autour de ces vaccins.
Des études pour la plupart librement accessibles en ligne. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre site internet.
La chronique Les Dessous de l'Infox avec Grégory Genevrier. La Russie est presque imbattable sur le marché des engrais. Ça ne fait pas l'affaire des industriels européens qui fabriquent des nutriments pour les cultures sur le continent. Ces derniers craignent pour leur activité. La chronique des matières premières avec Marie-Pierre Olfin.
C'est un bras de fer qui pourrait encore durer longtemps. D'un côté, la Russie qui fabrique des engrais azotés à bas prix grâce à ses propres réserves de gaz. De l'autre, des producteurs européens qui rêvent d'une taxe sur les engrais importés qui leur permettrait de relever leur prix. Au cœur du problème, il y a le prix du gaz justement, qui constitue 70 à 80% des coûts de fonctionnement d'une entreprise d'engrais. Au plus fort de la crise énergétique de 2022, plusieurs usines européennes ont cessé de fonctionner. La production d'ammoniac a même chuté de 70% avant de repartir à la hausse. Pendant ce temps, pour répondre à la demande, les importations ont logiquement augmenté, en particulier celles provenant de Russie. C'est le cas pour l'urée, un engrais azoté. Les importations en Europe ont atteint un niveau record la saison dernière. Selon Yara International, le géant européen des engrais, elle représentait en ce début d'année encore près d'un tiers des importations totales d'urée de l'UE. À ce rythme-là, l'Europe se dirige tout droit vers une nouvelle dépendance à l'égard de la Russie. C'est ce qu'affirme Fertilizer Europe, un groupe de pression européen qui dit s'inquiéter pour la sécurité alimentaire. Le plus grand producteur d'ammoniac en Allemagne décrit, lui, une Europe inondée d'engrais russes dans une interview donnée il y a quelques jours au Financial Times. Le scénario du pire, c'est le déclin de la filière européenne, préviennent les industriels. Ils réclament aujourd'hui l'aide des politiques, ces mêmes politiques qui laissent entrer les engrais russes pour atténuer les charges des agriculteurs européens, car imposer des taxes à l'importation, cela ferait monter les prix alors qu'ils ont maintenant baissé et sont revenus à des niveaux d'avant-guerre pour certains engrais. On voit donc mal comment les industriels pourraient obtenir satisfaction rapidement, résume un négociant en engrais qui voit difficilement l'Europe céder sur le sujet.
Et la chronique des matières premières avec Marie-Pierre Olfan dans quelques secondes sur RFI, un nouveau journal d'actualité internationale.
RFI à Cluj, 94 FM.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
En Louisiane, dans le sud des États-Unis, la langue française reprend de la vigueur. Et des médias accompagnent et encouragent ce renouveau. C'est le cas de Télé Louisiane qui, depuis 2018, diffuse des vidéos en ligne et s'est fait une place sur l'antenne de la télévision publique. Mon invité est Will McGrew, le cofondateur de Télé Louisiane. Rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI pour l'atelier des médias.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Il a allumé des flammes sous bien des marmites et des casseroles pour préparer des centaines de milliers de repas pour les exilés, les réfugiés, les gens dans la précarité. Il portera la flamme le 14 juillet prochain, la flamme olympique. Le chef cuisinier mauritanien Haroun Asso est notre invité ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.